de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal aujourd'hui, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bonjour, Joitar. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers relatives auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente dans le journal d'aujourd'hui, avec moi Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. La Chine améliorera la logistique et le transport de la chaîne du froid. La Grèce lève les restrictions Covid pendant les voyages d'été. Le ministre de l'Industrie vise à ce que l'industrie pétrochimique indonésienne soit classée première au sein de l'ASEAN. NTB présente Mandalika Rinjani aux participants indonésiens à la diplomatie des jeunes. La conférence mondiale sur l'océan produit 305 ans engagement pour la conservation des océans. La semaine du Tilawatil Quran à Aceh a réuni 3164 participants dans toute l'Indonésie. L'Indonésie présente des produits de la pêche au Seafood Show Osaka 2022. Mon cher auditeur, voici la nouvelle en complet. Les autorités chinoises ont publié une directive pour accélérer la logistique et le transport de la chaîne du froid, promettant des efforts pour moderniser les réseaux d'infrastructures et encourager les mises à niveau des équipements technologiques. La Chine optimisera l'aménagement des installations de la chaîne du froid dans les ports centraux et améliorera le réseau des installations de transport de la chaîne du froid pour la production et la vente des marchandises conformément aux directives publiées conjointement par plusieurs agences gouvernementales, dont le ministère des Transports. Des efforts supplémentaires seront déployés pour encourager le développement des moyens de transport de la chaîne du froid et faire progresser la mise en œuvre d'installations et d'équipements intelligents de contrôle de la température, selon les directives. La directive détaille également les étapes pour développer des entreprises qui deviennent l'épine dorsale du transport de la chaîne du froid et améliorent les capacités des services logistiques transfrontalières de la chaîne du froid. La Grèce a déclaré mercredi 13 avril que les restrictions pendant la pandémie, telles que l'utilisation de masques d'intérieur et de certificats COVID, seront levées tout au long de la période touristique estivale. Les autorités envisageront de rétablir à nouveau les règles en septembre. Comme cité par Antara, les infections à COVID-19 en Grèce ont diminué ces dernières semaines, les autorités enregistrant 15 000 infections et 64 décès mardi 12 avril. Le principal tourisme estival en Grèce commence généralement après la Pâque orthodoxe, qui tombe cette année le 24 avril. La Grèce attend à un nombre élevé de visiteurs cette année, les autorités prévoyant que les revenus atteindront 80% des revenus en 2019, une année record avant que la pandémie n'interrompe les voyages. Le ministre grec de la Santé, Thanos Plevris, a déclaré que la décision d'assouplir les restrictions était basée sur des données épidémiologiques et des conseils d'experts. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, vise à ce que l'industrie pétrochimique indonésienne soit classée première au niveau de l'ASEAN. Il s'agit de considérer le succès ou l'échec du développement industriel national, dont l'un est influencé par le profil de l'industrie pétrochimique. Le ministre indonésien de l'Industrie l'a fait savoir lors de l'examen du projet Asahimas Chemical Phase 7SA à Cilegon Banten mercredi. L'industrie pétrochimique est une industrie stratégique au niveau en amont qui est le capital de base et la principale condition préalable au développement d'industries en aval telles que les plastiques, les tissus en fibre, les textiles, l'emballage, l'électronique automobile, la médecine et d'autres industries importantes. Il a dit qu'actuellement, la capacité industrielle nationale pour ces produits atteint 7,1 millions de tonnes par an. Cependant, les importations de produits chimiques sont également toujours très importantes, atteignant 4,6 millions de tonnes en 2020. Cela indique la nécessité d'efforts d'augmentation des capacités de production pour répondre à la demande antérieure. L'Office provincial du tourisme de Nusa Tenggara occidentale a préparé un certain nombre de destinations touristiques de premier plan, notamment le circuit de Mandalika et le parc national du mont Rinjani, dans le cadre d'une série d'introductions touristiques aux participants à la diplomatie indonésienne de la jeunesse du 23 au 25 avril 2022. Chef de l'Office provincial du tourisme de Nusa Tenggara occidentale, Yusron Hadi, à Mataram, a déclaré mercredi que l'introduction de cette destination touristique de premier plan est un événement promotionnel pour les destinations touristiques de Nusa Tenggara occidentale dans le monde. Il a mentionné qu'il y a 4 destinations touristiques sélectionnées qui seront introduites dans la tournée à Lombok, y compris la région de Mandalika, y compris la plage de Kuta et le circuit de Mandalika. En outre, le bal traditionnel du village touristique de Sad dans la région centrale de Lombok, la zone touristique de Sembalun et le parc national du mont Rinjani dans la région de Lombok oriental. En outre, présentation des produits de MPME de Nusa Tenggara occidentale. Indonesia Youth Diplomacy est un forum de consultation et de dialogue avec les jeunes en tant que futurs leaders, pour sensibiliser aux problèmes mondiaux, échanger des idées argumentées, négocier et parvenir à un consensus. L'envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry, a déclaré qu'au premier jour de la 7e conférence mondiale sur les océans, 350 engagements avaient été pris concernant la conservation marine. Cela a été expliqué par Kerry lors d'une conférence de presse par téléphone après le premier jour de la conférence de la République des Palaus, qui a été surveillée depuis Jakarta mercredi. Il a expliqué que les États-Unis avaient participé à plus de 100 engagements et approuvé un financement de 2,7 milliards de dollars, soit environ 38,77 billions de roupies, impliquant les 13 départements et agences de l'État. John Kerry a déclaré que les engagements étaient liés au climat, à la pêche, à une économie bleue durable, aux zones marines protégées, à la sécurité maritime et à la pollution marine. Il a ajouté l'une des choses qui se sont démarquées lors de la première journée de l'événement. à savoir l'existence d'une pleine conscience de l'importance de traiter les problèmes en mer pour pouvoir faire face aux défis de la crise climatique. Au total, 3164 participants de diverses régions d'Indonésie ont pris part à la 52e semaine nationale du Tewatil Quran PTQ pour Radio République Indonesia RRI à Takengon, Aceh Central de la province d'Aceh. Le président directeur de la Radio République Indonesia, Ian Drasmoas, à Aceh Central, a déclaré mercredi que le PTQ en 2022 a atteint 3164 participants dans toute l'Indonésie, où en 2021 seuls 2500 participants ont participé. Le 52e PTQ de RRI a été ouvert directement par le vice-président indonésien Maruf Amin à Aceh Central, au champ du secrétariat de régence. Il a expliqué que le PTQ de RRI n'était pas seulement un moyen de répandre l'islam ou d'animer le mois sacré du Ramadan, mais aussi une opportunité de donner de l'espace à la jeune génération pour améliorer sa capacité à lire le Coran. Selon lui, l'événement national offre également un espace aux personnes ayant des capacités sensorielles malvoyantes pour participer virtuellement au concours de la branche du Coran, du Tilawatil Quran, et sera évalué directement par le conseil des juges du ministère de la Religion. En plus du concours PTQ, l'activité a également été complétée par une exposition de MPM assistée par le gouvernement de la région centrale d'Aceh pour encourager et accroître l'enthousiasme des micro, petites et moyennes entreprises de la région. L'Indonésie présente les produits de la pêche de qualité supérieure du pays au Seafood Show Osaka 2022, qui aura lieu les 13 et 14 avril 2022 au ATC Hall d'Osaka. Seafood Show Osaka est la plus grande exposition de produits de la pêche de la région du Kansai à laquelle participent environ 400 importateurs et détaillants domiciliés au Japon. La consul générale indonésienne Osaka, Diana Sutikno, dans une déclaration écrite du consulat général indonésien à Osaka reçu à Jakarta mercredi, a expliqué que la présence des produits de la pêche indonésien de 9 acteurs commerciaux à Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku et Papouasie à Osaka Seafood Show a suscité l'intérêt des visiteurs, y compris un certain nombre de grands détaillants des produits de la pêche du Kansai. Il a ajouté que la participation au Osaka Seafood Show est le bon élan pour augmenter la part de marché des produits de la pêche indonésienne au Japon, notamment dans l'ouest du Japon. Bonjour, Joytar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
16 Ritter, bonsoir. Voici le camp diplomatique ayant pour le titre Le marine national indonésien TNI AL mène une diplomatie navale à Singapour. Dans le cadre de la mise en œuvre de la révision de l'axe maritime mondial PMD et du rôle de la diplomatie navale, la marine nationale indonésienne TNI AL et la marine de la République de Singapour RSN ont tenu la 46e réunion du groupe de travail naval conjoint ZNWG le 7 avril. Cette réunion s'est tenue au complexe du ministère de la Défense Bukit Gombak, Singapour. Cette fois, la réunion de ZNWG était co-présidée par l'assistant adjoint aux opérations du chef d'état-major, le vice-amiral TNI Oasis Priyono, et le chef adjoint de l'opération navale, le colonel Daniel Ang. La réunion a discuté de la réalisation de la mise en œuvre et de l'évaluation de la 45e réunion de ZNWG, ainsi que des plans de coopération dans les opérations, la formation, l'éducation, les cours et l'échange de personnel des deux marines au niveau tactique et stratégique. Le résultat de cette réunion de ZNWG, entre autres, ils ont convenu d'accroître la coopération directe en impliquant les principaux outils de leurs systèmes respectifs pour surmonter les problèmes de sécurité maritime et les différents frontaliers maritimes liés à la question de la mer de Chine méridionale et à la crise ukrainienne. À une autre occasion, après la réunion, une visite a été effectuée au centre de fusion d'informations au complexe de la base navale de Changi, CNB. La visite visait à voir directement la mise en œuvre de la fonction de fusion d'informations sur la sécurité maritime régionale et mondiale assurée par les officiers de liaison internationaux OIT. Oasis Priyono et la délégation de TNI AL ont reçu des explications des officiers de RSN Surendran et le capitaine de corvette Amarulo, OIT Indonésie, concernant le profil du centre de fusion d'informations et les principales tâches de ses fonctions vitales dans le maintien de la sécurité et de la sûreté des voies maritimes, ou SLOC, et la confiance mutuelle entre les pays participants. C'est Zorita, c'était le point diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 14 avril 2010, le tremblement de terre de Yushu. Le tremblement de terre de Yushu en 2010 s'est produit le 14 avril 2010 avec une magnitude de 6,9. D'après le rapport de Xinhua, 2968 personnes ont été déclarées mortes et plus de 12 000 autres ont été blessées. L'épicentre de séisme se trouvait dans le village de Rima, Sanglaksiu, dans une région reculée près de la frontière tibétaine. Passons maintenant à l'événement du 14 avril 2011, la mort de Rosiane Anwar. Rosiane Anwar est une figure de la presse, historien, poète et humaniste indonésien. Rosiane a commencé sa carrière journalistique en tant que reporter pour le quotidien Asia Raya pendant l'occupation japonaise. Pendant la lutte, il a été emprisonné par les colonialistes néerlandais à Bukit Duri, Batavia. Après l'indépendance de l'Indonésie, Rosiane Anwar a été président général de l'Association des journalistes indonésiens et a reçu le prix Bintang Maputra III avec la figure de la presse Jacob Utama. En 1950, avec Usmar Ismail, il a fondé la compagnie nationale de film Perfini. Il est décédé le 14 avril 2011 à l'âge de 88 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 avril, Journée mondiale de la maladie de Chagas. La Journée mondiale de la maladie de Chagas a été commémorée pour la première fois le 14 avril 2020, après l'approbation de la date de la commémoration lors de la 72e session de l'Assemblée mondiale de la santé en 2019. Le Chagas est une maladie causée par une infection par le parasite Trypanosoma cruzi, qui se transmet par la piqûre de l'insecte suceur de sang, la punaise de baiser. Cette maladie est courante en Amérique centrale et du Sud. Le but de la commémoration est de sensibiliser le public au Chagas, une maladie qui afflige souvent les pauvres sans accès aux services de santé. Le 14 avril fait référence à la date à laquelle le cas de Chagas a été diagnostiqué pour la première fois par le médecin Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, le 14 avril 1909. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Musik menghentak, hangatkan suasana. Ada seorang sosok indah, dia berdansa. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Oh, oh, oh. Menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku ingin mati saja. Terkejap membayangkan bersama dengannya, menghirup aroma tubuhnya. Oh indahnya. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku
Voilà, chers auditeurs, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, un conférencier de l'UGM développe une technologie de support pour la cartographie des herbiers marins. Le conférencier au département des sciences de l'information géographique à la faculté de géographie de l'Université Gadjah Mada, UGM, Pramaditya Wicaksono, a développé une technologie de traitement des données d'imagerie à distance pour cartographier les herbiers marins avec précision, efficace et efficiente. C'était le communiqué de presse de l'université reçu à Yogyakarta mardi 12 avril. Sur la base d'une étude sur les herbiers marins depuis 2010, Pramaditya a développé la technologie de cartographie des besoins en carbone pour la surface de carbone et la séquestration de l'écosystème des herbiers marins automatiquement. Le développement technologique a impliqué de nombreux professeurs, chercheurs et étudiants tout en étant soutenu par des institutions de recherche nationales et internationales. Les institutions de recherche impliquées dans le développement technologique comprenaient le Centre de recherche océanographique de l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation, BRAN, le ministère des Maritimes et de la Pêche, l'Agence d'information géospatiale, l'Université Hasanuddin et le Centre de recherche spatiale de BRAN, l'Université de Queensland, l'Université et la recherche de Wageningen et TH Kun, Université des sciences appliquées de Cologne. Pramaditya expliquait que les herbiers marins sont l'un des écosystèmes de carbone bleu de côte dominés par les herbiers marins ou les angiospermes. Les herbiers marins jouent un rôle clé dans le maintien de la vie du biote marin, le nettoyage de l'eau de mer et la stabilisation de la sédimentation de l'eau. Bien que la zone représente moins d'un pour cent de l'océan terrestre, les herbiers marins stockent environ 18% du carbone total dans la mer. La capacité des herbiers marins à absorber le carbone est 30 fois supérieure à celle de la forêt tropicale humide. Ce fait place à des herbiers marins l'écosystème d'absorption de carbone le plus efficace et le plus efficient de la planète. En outre, la valeur économique des services écosystémiques des herbiers marins est bien supérieure à celle d'autres écosystèmes marins tels que la forêt de mangrove et les récifs coralliens. Selon Pramaditya, l'Indonésie est le centre de la biodiversité des herbiers marins qui compte 5 à 10% des herbiers marins du monde. La gestion d'écosystèmes des herbiers marins, selon lui, nécessite des informations sur la distribution spatiale et temporelle des herbiers marins, ainsi que des informations biophysiques telles que la variété des espèces, le pourcentage de couverture, la biomasse, le stock de carbone et le taux d'absorption du carbone. En outre, il est également besoin d'informations sur les modifications de la superficie des herbiers marins en Indonésie et ses diverses causes. Ces informations de manière multitemporelle sont cruciales pour observer la dynamique de l'écosystème des herbiers marins en Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Be
Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez, cette chanson? C'était belle? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Chers auditeurs, il existe différents menus pour les tartes de différentes régions d'Indonésie. À Bali, il existe un menu typique pour les tartes des habitants de Amokajanan, la réserve de Buleleng. C'est ce qu'on appelle la Bui Kajanan. Le nom a été tiré de l'emplacement de la mosquée historique qui est située dans le Amokajanan, Buleleng. La Bui Kajanan est un menu spécial servi à la grande mosquée de Jami Singaraja. La spécialité de la bouillie de Kajanan réside dans sa texture et son goût plus oriental car elle utilise des épices et comprend d'autres épices complémentaires comme le lait de coco, les épices au curry et la viande de l'agneau. Les épices sont si fortes, outre la texture et le goût, la spécialité de cette bouillie réside dans sa présence qui n'est disponible que pendant le mois de Ramadan et n'est pas commercialisée. La Bui Kajanan est inspirée de la Bui Arab qui a été faite par la communauté arabe du village de Kajanan, Singaraja de Pilang Tikite. Le takmir de la grande mosquée de Jami Singaraja sert de la Bui de Kajanan dans le but de traiter les souvenirs passés. Dans le passé, cette Bui de Kajanan était régulièrement servie pour le menu iftar à la grande mosquée de Jami Singaraja. Cependant, la présentation de cette bouillie s'est arrêtée dans les années 1980. Maintenant, cette bouillie est à nouveau présentée comme un menu iftar par la direction de la grande mosquée de Jami Singaraja. Le plat de la bouillie Kajanan doit être préparé avant l'appel maghribang. Pendant le Ramadan de cette année, le gardien de la grande mosquée de Jami Singaraja prépare 7 kg de bouillie qui peuvent être préparées jusqu'à 300 portions par jour. La bouillie est servie aux personnes qui rompent leur jeûne ensemble à la mosquée et aux riverains qui viennent la ramener ces jours. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Beranjak pergi, jangan terlambat lagi. Ini bukan di pagi hari, sudah pukul 2 siang.
Entah mengapa malam tadi, kesurupan atau alkohol, pikiran atau hal tolol, air mata lancar jalan tol. Tapi ada dua rapat sore ini,
penonton menunggu dari pagi.
Ajakan makan malam sudah janji,
mau kurusan momennya lagi.
Hari yang baik untuk berbohong, hari yang baik untuk tertawa, hari yang baik untuk bahagia, hari yang baik untuk cari uang.
Rambutku terlalu panjang, berat
berantakan menutup mataku yang katanya terlalu lelah. Kita mair-mair menutup celah, boleh kata tuh kelihatan. Jangan buat tanda salib di kerumunan, iklan-iklan yang dipaksakan. Katanya ku kurang senyum, harus lebih fun.
Voilà, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons présenter Jardin d'art de Jakarta 2022. Après avoir organisé avec succès 70 galeries d'art international et indonésienne et exposé 1300 œuvres d'art en 2019, Jardin d'art de Jakarta 2022 se présente dans différents formats. Pour commencer cet événement, Jardin d'art de Jakarta 2022, un pré-événement, a eu lieu du 7 au 4 avril 2022 à Hutan Kota Bayu Plataran, Senayan. Avec le concept de parc urbain et d'espace vert ouvert combiné à la beauté des œuvres d'art indonésiennes, Jardin d'art de Jakarta 2022 devrait pouvoir raviver l'esprit du développement de l'art en Indonésie. Selon Tom Tandio, en tant que directeur de la foire dans Jardin d'art de Jakarta 2022, l'art qui sera exposé se concentrera sur la sculpture. Dans la section extérieure, il y aura environ 40 statues et peintures. Art Jakarta se concentre sur le contemporain, tandis que Jardin d'art de Jakarta 2022 est plutôt un jardin extérieur. Sur le lieu de l'événement, il y a deux tentes. À l'intérieur, des deux grandes tentes, environ 20 galeries d'art nationales et étrangères participent, sont entre autres Art Agenda SEA, Art Serpong Gallery, Gajah Gallery, Hedonis Gallery, Kohesi Initiative, Semarang Gallery, Rachel Gallery, Gudang Garam, Linda Gallery, Museum of Toys, Eroh Project. Dans Jardin d'art de Jakarta 2022, les artistes ont la liberté d'exposer leurs sculptures. Il y a environ 100 artistes impliqués. Il y a aussi une exposition NFT collectée par 6 collectionneurs indonésiens. Jardin d'art de Jakarta 2022 est ouvert du 7 au 8 avril pour les invités, puis du 9 au 10 avril jusqu'à 14 avril. Et les billets pour entrer dans Jardin d'art de Jakarta peuvent être achetés sur artjakarta.com au prix de 150 000 rupies. sami setelah rubrik Linonesi Angkuler.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Alors, c'était belle la chanson? Vous aimez? Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée Hip Hip Hurra, chantée par Krisha. Chargeteur, cette chanson est le pilier de l'album Hip Hip Hurra qui est sorti en 1986. L'album Hip Hip Hurra est le deuxième album de collaboration de Krisha avec Aji Sutama. Suite au succès de son précédent album intitulé Aku Cinta Dia. Le conseil musical porté par l'album Hip Hip Hurra est toujours le même que l'album précédent, à savoir une musique au rythme léger et à la mélodie enjouée, qui était populaire à cette époque. La popularité de cette chanson a poussé de jeunes musiciens indonésiens à la rééditer avec une nouvelle version, dont l'une était de Ruben Onsu qui a collaboré avec le groupe de filles Super Girlies en 2012. Bonjour Julitar, voici Krisha, va chanter une chanson intitulée Hip Hip Hurra. Bonne écoute! Nanti
sakit hura-hura.
Bonjour, chers auditeurs et auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, et joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.